jour, je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Et oui, bienvenue sur Zoom Écologie, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et ce soir, pour notre superbe émission, vous êtes avec trois animateurs de l'équipe de la bande d'Abeber. Moi-même, Khaled.
Et Rebecca.
Et Clément. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir à tous. Et on est presque au complet ce soir parce qu'il y a aussi Élise et Cyril à la technique que nous saluons bien.
Et vous saluez de la main, mais vous n'entendez
mais
pas.
Oui, personne ne vous voit, mais nous on voit et on sait les efforts que vous faites pour réussir cette émission. Donc ce que vous venez d'écouter, c'était Baba Zula, Butterfly Birds. Et aujourd'hui, l'émission, c'est la troisième partie d'une trilogie que nous avons mis en place à l'occasion du Forum Social Mondial qui s'est passé en mars 2013. En Tunisie. Et pendant ce forum social, on était partis en reportage. On envoyait très, très, très spéciaux de la bande d'Abeber là-bas pour justement voir ce qui se fait un peu partout dans le monde et pas si loin aussi, vous verrez bien, parfois, au niveau de l'écologie. Et aujourd'hui, c'est la troisième partie. La première fois, on avait fait surtout l'anti-pub. C'était au milieu du FSM. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi ce qu'on avait fait d'autre lors de la première émission.
Il y avait un micro-bateau pour savoir pourquoi les gens étaient venus en bateau et pas en avion.
Exactement. On avait fait ça sur le bateau aussi. On avait parlé pendant la deuxième émission de Sidi Amor, un lieu où on était allé faire un reportage avec vraiment de terrain, avec le son qui va avec. Et aujourd'hui, on revient un peu plus au FSM.
Donc, et ce qui s'est passé dedans. On va les rappeler, on peut les réécouter sur zoom-ecologie.net.
Tout à fait, merci Rebecca. Et aujourd'hui, l'émission va porter beaucoup plus sur ce qui se passe au Forum Social Mondial. Juste pour recontextualiser, le Forum Social Mondial, c'est un forum qui a lieu tous les deux ans, si je me rappelle bien, qui est un contre-forum de Davos, qui est celui où, Davos, c'est là où se réunissent pas mal d'entrepreneurs parler de la mondialisation du libre-échange. Le Forum Social Mondial, c'est une occasion aussi d'aller plutôt vers la mondialisation de la solidarité et de montrer justement qu'il y a une autre forme de mondialisation qui est possible.
Bref, c'est des altermondialistes, quoi.
Exactement.
Mais n'est-il pas ?
Et avec Élise, on y a été. Et après, je ne sais pas si vous aviez d'autres actualités à passer entre-temps.
Ça s'appelle « Il faut meubler », là. Alors attention, meublons d'actualité. Dans l'agenda à passer, il y a eu le Festival des Résistances et des Alternatives à Paris, qui était chouette. Voilà, je ne sais pas si vous y êtes allé. Mais donc, chaque année, c'est un événement très intéressant, très sympa, qui allie l'écologie, le social, les résistances. Voilà. Et, d'ailleurs, ça donne des idées pour des émissions suivantes sur les résistances en Ile-de-France. On y reviendra notamment contre le Grand Paris.
Oui, et donc Élise m'a soufflé juste à l'instant que pendant l'émission, on peut aussi en parler un petit peu. Et donc, il va y avoir une interview aussi. En première partie, on va avoir une interview avec Maxime Cambe. Qui a fait partie des personnes qui ont organisé l'espace climat pendant le Forum Social Mondial. Justement, c'était très intéressant de voir qu'il y avait eu un espace climat. Je crois que c'est la première fois que ça arrive pendant un Forum Social Mondial. Et de nous parler justement plus sur le terrain, comment ça s'est passé. Et du coup, c'est aussi une occasion pour parler du climat. Après ça, il y a une interview qui a été réalisée par Élise. Le collectif, l'association, le mouvement, on pourrait dire plutôt, voire même BC, qui est très très intéressante et qui font donc justement aussi donc un festival Alternative Bass en octobre, le 6 octobre exactement si je me souviens bien, et qui ont aussi donc mis en place une campagne pendant le Forum social mondial, peut-être après, donc sur une campagne qui s'appelle Logo Climat. Donc ils pourront détailler un peu plus de quoi il s'agit. Donc du coup,
On va attendre Maxime Combes qui va nous appeler dans quelques instants. On peut peut-être juste expliquer un petit peu qui c'est Maxime Combes, parce que c'est quelqu'un qui écrit régulièrement pour des journaux alternatifs, et il est notamment membre de Attaque France et puis aussi de l'association Hightech, engagé dans les projets éco des alternatives. Il écrit régulièrement pour Mediapart et donc c'est lui qui va nous expliquer un petit peu plus sur l'espace climat, ou the climate space comme ça s'appelait, parce que c'était quand même un événement international, donc l'anglais était très présent. Et tu nous diras, Khaled, il y avait de l'anglais, il y avait du français, il y avait aussi d'autres langues dans lesquelles se passaient les événements.
Les événements donc pendant le Forum social mondial étaient en anglais, français, arabe et espagnol.
D'accord.
Donc du coup, ça couvrait déjà plusieurs continents. Et d'ailleurs, c'était très intéressant, mais il y avait vraiment une grosse représentation donc de Sud-Américains. Il y avait quelques Québécois, des Africains, pas mal d'Européens aussi, et très très peu d'Asiatiques. C'est un constat que j'avais fait. C'est vrai qu'il y avait très très peu, enfin à part donc du Proche-Orient qui était présent, mais très très peu d'Asiatiques. Donc c'est intéressant de voir que dans ce genre d'événement, il n'y en avait pas énormément.
Bah donc pour j'espère que Maxime va appeler bientôt et qu'il va nous donner beaucoup plus de détails. Mais c'était donc une partie du Forum social mondial qui était déjà organisée en plusieurs pôles. Il y avait le pôle femmes. Il y avait tu nous expliqueras mieux, je pense, Khaled, puisque tu étais. Qu'est-ce qu'il y avait comme pôle dans le cadre du Forum social?
Alors en fait, le Forum social mondial avait lieu donc dans une université donc dans la banlieue tunisienne, et donc je crois que c'était Manard, si je me rappelle bien, et donc qui était organisé, en plus c'était très intéressant parce qu'il était organisé vraiment par des Tunisiens pour une bonne partie, une bonne majorité. Donc il y a même un article assez intéressant sur une coopérative donc qui a organisé aussi en partie le Forum social mondial, qui a participé à l'organisation. Il y a eu pas mal de participations de Tunisiens. Et en gros, en fait, l'objectif de ce Forum social mondial, c'est de converger en fait plusieurs forces militantes qui vers un objectif commun que j'expliquais tout à l'heure, donc sur la mondialisation donc des solidarités, plutôt que de celle de libre-échange, et qui sont pas mal pour la justice sociale, des choses comme ça. Et donc, du coup, en fait, il y avait plusieurs espaces. Donc, dans un espace, par exemple, plus info-média, une sorte d'espace média, où là, en fait, il y avait beaucoup plus de médias libres. Enfin, il y avait quasiment que ça, même des médias libres, qui étaient présents. Donc, des médias indépendants, on peut dire, pour faire vite, qui parlaient donc, qui ont construit, par exemple, une charte médiatique des médias indépendants. Enfin, ils ont pas mal travaillé dessus. Il y avait des conférences et des ateliers donc sur ces thématiques-là. Il y avait aussi des personnes qui parlaient des médias au niveau informatique beaucoup plus, donc là qui travaillaient pas mal sur tout ce qui est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui, les systèmes d'action en fait sur Internet via comme du piratage, des choses comme ça. Enfin, c'est ce qu'on, pour aller vite, c'est un peu ça, mais c'est comment en fait être le grain de sable dans le système médiatique et utiliser en fait Internet grâce à ça.
Oui, puis ils sont allés jusqu'au piratage, simplement le logiciel libre, c'est-à-dire avoir les moyens d'utiliser ces outils de manière plus autonome et avoir le plus de maîtrise possible.
Exactement. Merci. Donc il y avait aussi donc justement, en fait, comme je l'expliquais, c'est le logiciel libre, c'est aussi une façon justement de se réapproprier complètement tous ces logiciels, hein, et de pouvoir justement donc communiquer aussi donc de façon plus libre sur Internet, Et en fait, ils amenaient pas mal justement donc les personnes à. Il y avait des ateliers informatiques où ils faisaient justement pas mal de choses pour aider d'autres personnes à utiliser justement ces logiciels-là. Après ça, il y avait aussi donc un espace plutôt politique, plus porté sur la Méditerranée aussi, qui était aussi qui est aussi intéressant. Donc là, c'est différents lieux en fait, tous ces espaces-là. Il y avait un espace qui était un peu le centre, c'était vraiment sur tout ce qui concerne les problèmes de Méditerranée, des révolutions arabes, plus centré là-dessus. Il y avait l'espace climat, comme on l'a expliqué, qui est quand même un truc assez original pour le coup. C'était assez éclaté, en fait, il y avait beaucoup de choses partout.
Et donc chacun de ces pôles, et c'était formé de plusieurs petits stands, ou comment ça se présentait concrètement?
Comment ça se présentait, c'était vraiment assez bizarre, en fait, parce qu'il y avait vraiment des associations du monde entier. Enfin, j'ai rarement participé à un événement aussi dense au niveau des participants. Mais au niveau du programme, c'était un truc de fou. On avait des conférences et des ateliers tous les jours. Et par exemple, moi, j'y avais été pour une autre association aussi. Je n'ai même pas pu participer énormément à d'autres conférences et ateliers. Notamment, donc, justement, je n'ai pas eu le temps d'aller voir bien comme il faut l'espace climat. C'est pour ça qu'avoir Maxime Combes aujourd'hui, ça va être vraiment très intéressant pour parler donc, de ce phénomène. Donc, je vois donc qu'il n'y a pas encore de... Donc Maxime est là.
Il est en ligne.
Il vient d'appeler.
Il est en ligne. D'accord. Donc on attend juste qu'il nous le passe. À la technique, donc... Allô Maxime ?
Bonsoir tout le monde.
Ah, bonsoir.
Merci d'être là. Et je laisse Rebecca poursuivre l'interview avec toi. Enfin, commencer l'interview.
Oui, bonsoir Maxime. Moi je suis là avec Clément ce soir. On n'était pas au forum social, donc on est très très curieux de savoir un petit peu de la bouche directe de quelqu'un qui a vraiment organisé cette partie du forum. C'est bien la première fois qu'il y a eu cet espace climat au forum social. Et pourquoi la décision a été prise de créer ce pôle particulièrement cette fois-ci?
C'est effectivement la première fois qu'un espace en tant que tel au sein du Forum Social Mondial s'est intitulé Espace Climat et a permis de réunir toute une série d'activités portant sur cette thématique-là au sens extrêmement large, mais c'est bien évidemment pas la première fois où l'on parle des enjeux et défis climatiques dans le processus du Forum Social Mondial. Il y a toujours eu toute une série d'activités sur ces questions-là, mais qui n'avaient jamais été regroupées autour d'un espace physique thématique et préparée en amont par toute une série d'organisations. Nous avons décidé de porter cette question-là et cette proposition d'avoir un espace thématique sur les enjeux climatiques, principalement pour deux raisons. Un, pour s'assurer que cette thématique serait véritablement visible dans le processus du Forum Social Mondial, étant donné que on pensait que c'était relativement important que ça le soit et qu'on pensait bien qu'au regard de l'actualité politique, sociale, économique, du pays hôte du Forum Social Mondial, à savoir la Tunisie, de la région, cette thématique n'était pas forcément au cœur, et c'est bien compréhensible, des mouvements qui ont porté le processus révolutionnaire, au moins en Tunisie, que au moins ce soit visible dans le cadre du Forum Social Mondial, et que les mouvements internationaux et les Tunisiens qui pourraient intéresser par ces questions-là, au sens très très large, encore une fois, du climat, puissent avoir un espace où se retrouver, discuter, se rencontrer, construire des choses ensemble. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on considère que d'année en année, les conférences internationales sur le climat de l'ONU ou les initiatives prises par les États ne permettent pas de répondre aux défis climatiques et que jusqu'à présent, ce qu'on appelle le mouvement pour la justice climatique, le mouvement international pour la justice climatique, a beaucoup dépendu en termes d'agenda, en termes de mobilisation, en termes d'activité, de cet agenda officiel organisé par l'ONU. Et c'est toujours prononcé en fonction de ce que les puissants, les États, décidaient et mettaient sur la table de discussion. Et on a pensé qu'il était temps un peu au moins d'avoir un équilibre avec des initiatives propres organisés par, par les mouvements sociaux, par les mouvements paysans, par les mouvements de femmes, par les mouvements luttant contre les projets d'extraction d'hydrocarbures, les mouvements syndicaux luttant pour des campagnes comme One Million Climate Jobs, de construire leur propre agenda et de ne pas être complètement déterminés par les négociations internationales. Donc en fait, dans cet espace climat au FSM, on a assez peu parlé des négociations de l'ONU, assez peu parlé de tous les aspects techniques de ces négociations-là, et en se concentrant vraiment sur quelles sont les revendications, les exigences, les analyses, les constats des mouvements, et pourquoi ils considèrent que la crise climatique aujourd'hui traduit une crise systémique, et que pour faire face à cette crise systémique, il ne suffit pas simplement de petites mesurettes, petites décisions prises ici ou là, mais réellement de repenser globalement les modèles dans les modèles de société dans lesquels nous vivons.
Oui, merci. Donc, est-ce que c'était donc ces groupements de personnes avec des revendications qui ont organisé cet espace, ou est-ce qu'ils ont été invités à participer par d'autres personnes, d'autres organisateurs? Vous pouvez nous dire un petit peu sur ce qui a initié cet espace et l'organisation? C'était tous ces participants-là à la base ou
Cette idée de tenir un espace climat au Forum social mondial, elle vient de deux moments de réflexion différents. Le premier s'est tenu à l'Université d'été d'Attaque en France, à Toulouse, au mois d'août 2012. Et le deuxième s'est tenu lors d'une réunion à l'invitation des mouvements asiatiques fin août 2012, là encore, à Bangkok. Et la résultante de cet espace climat donc est né de ces premières discussions-là, et donc des organisations comme la Via Campesina, donc ce serait l'objectif ultime. Donc on espère que ça y contribue, on espère que ça permet de faire émerger des idées et de faire avancer des thématiques et des questions plus en avant qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais on est quand même aujourd'hui encore un peu limité dans notre capacité à réellement imposer cet agenda-là à l'ensemble du débat public. Donc déjà, c'est déjà bien d'avoir contribué à ce que cette question-là soit mieux prise en compte dans le processus du Forum social mondial. Et vous pouvez par exemple regarder la déclaration finale de l'Assemblée des mouvements sociaux du Forum social mondial 2013 à Tunis, qui comprend un long paragraphe sur ces enjeux climatiques, écologiques au sens large, qui n'aurait sans doute pas été du même acabit, de la même veine, si on n'avait pas tenu cet espace climat. Et on sait que dans différentes initiatives prochaines qui vont avoir lieu, soit en Asie et également en Europe, des initiatives similaires vont être prises. Donc voilà, on espère que ça y contribue, mais j'aurais pas la prétention ici de dire que nous avons imposé notre propre agenda aux puissants de cette planète. Il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à construire pour être en mesure de leur imposer des choses qu'ils ne veulent pas.
D'accord. Bon, c'est vrai qu'après, la question, c'est pas forcément d'imposer l'agenda, c'est de trouver des solutions, des coordinations de plus en plus opérationnelles qui arrivent à lutter contre des projets néfastes. Bon, la question de l'agenda, c'est vrai que c'était peut-être pas ultra bien placé. Mais donc concrètement sur le contenu des ateliers, qu'est-ce qui ressort en termes de coordination, de diversité des luttes, d'avancées sur dans des pays en particulier?
Je pense que ça, on a réussi à mieux coordonner toute une série de luttes locales ou des coordinations régionales portant sur la bataille contre l'extraction des hydrocarbures. Par exemple, les liens aujourd'hui sont plus forts entre les mobilisations contre l'exploitation et l'extraction de pétrole issu des sables bitumineux en Alberta, au Canada, mais aussi le pétrole de schiste aux États-Unis ou les gaz de schiste au Québec, avec les mobilisations contre les gaz et pétrole de schiste en France, mais aussi en Tunisie, et l'extraction et les luttes contre l'extraction pétrolière, par exemple, pour prendre qu'un cas, le Nigeria. Ces gens-là se sont rencontrés, ont discuté, et il en ressort une volonté de mieux se coordonner, de se soutenir autant que faire se peut face à souvent des multinationales qui sont bien souvent les mêmes. Donc ça, c'est ça nous a permis d'avancer sur ce sujet.
D'accord.
Et donc, du coup, aussi en retour, de faire progresser cette idée que la question, c'est pas simplement la réglementation ou l'encadrement ou une meilleure régulation, une meilleure transparence de l'extraction des hydrocarbures, mais que face aux défis climatiques, il y a un certain nombre d'exigences à porter haut et fort, et notamment le fait que le pétrole, le gaz, le charbon est en présence bientôt trop importante sur la planète pour être extrait comme il l'est aujourd'hui d'ici 2050. Pour le dire autrement, si on veut respecter les exigences climatiques d'ici 2050, il faut laisser du pétrole, du gaz et du charbon en grande quantité dans le sol. Ce qui signifie, par exemple, derrière, qu'il est peut-être vain et inutile et très coûteux d'aller chercher du gaz et du pétrole de schiste, alors que tout nous indique qu'il faudrait plutôt réduire drastiquement notre consommation d'hydrocarbures. Et donc là, on a des connexions qui sont avec toute une série d'organisations et de campagnes qui n'étaient pas forcément sur cet agenda-là. Et on sait qu'après ce Forum social mondial de Tunis, dans les réseaux qui se sont sentis partie prenante de cet espace climat au sens très très large, cette question-là a été replacée un peu plus haut à leur agenda. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous interroger sur ces questions-là. De la même manière, on sait que sur les enjeux les enjeux agricoles, sur les enjeux de souveraineté alimentaire, d'accès à la nourriture saine et de qualité, et la relocalisation des productions, on sait que les activités qui ont été menées ont été aussi des occasions de tisser des liens avec un certain nombre d'organisations ou de personnes en Tunisie, pour essayer d'avancer sur cette question, qui est une question clé également en Tunisie, alors que ce pays, par exemple, ne dispose pas de syndicats de petits paysans membres de la Via Campesina. Donc est-ce que ça va demain permettre à ce que toute une série de gens se mettent à travailler ensemble en Tunisie sur cette question? Ça, j'en sais rien, et je ne prendrai pas les paris ici. Mais on a pu avancer sur cette question-là. Bon, je pourrais en faire un certain nombre. D'autres questions, des questions plus pointues. On a également eu des activités assez pointues et assez bien travaillées sur les questions de géo-ingénierie, sur les questions donc des technologies qui sont aujourd'hui avancées par les multinationales, les savants, les experts, les labos de recherche pour soi-disant faire face aux défis climatiques. Cette question-là a permis d'être également mieux partagée par différentes organisations et différents réseaux. J'en oublie certainement plein, mais voilà. Donc après, il ne faut pas non plus imaginer qu'on peut tout solutionner lors d'un espace climat, lors d'un forum social mondial. C'est une étape, c'est un moment qui nous a permis d'avancer, d'être présent, d'être visible. Et ce qui est peut-être le moins parlant pour les auditeurs, mais qui est très important pour nous, c'est de se rendre compte que si cet espace climat n'avait pas existé, toute une série de choses ou de campagnes ou de propositions aujourd'hui qui sont en train de discuter dans différents réseaux ne le seraient pas de la même façon compte tenu du fait qu'on aurait été absent du Forum social mondial. Donc voilà. Donc c'est surtout de cette façon-là qu'on permet de voir que cet espace-là a été utile.
D'accord. Donc c'est un espace de rencontre pour faire le point et repartir de plus belle sur pas mal de luttes, de campagnes.
Une date de mobilisation générale, une date d'action, un tel jour on va sauver le climat, c'est pas du tout l'esprit, c'est pas du tout la façon dont on l'a construit, parce qu'on est persuadé que justement, et ça c'est peut-être aussi une des conclusions de cet espace climat, c'est que c'est pas une date de mobilisation, c'est pas un sommet quel qu'il soit sur le changement climatique, c'est pas une campagne spécifique sur ces enjeux-là qui permettra d'être à la hauteur des enjeux. C'est qu'il faut aujourd'hui s'assurer que dans tout ce qu'on fait, dans toutes les campagnes, dans toutes les mobilisations qu'on peut mener, cette question climatique, cette question écologique, cette question des limites de la planète, des ressources limitées de la planète doit être intégrée. Donc quand on se mobilise contre des accords de libre-échange, quand on se mobilise contre les politiques d'austérité qui sont menées en Europe, quand on se mobilise contre les politiques néolibérales, quand on se mobilise contre les multinationales, toujours tenir compte du fait que la solution la solution et les campagnes doivent être intégrées à ces exigences climatiques. Par exemple, l'alternative aux politiques d'austérité en Europe, c'est pas des investissements dans des grands travaux et le fait de brader les ressources naturelles telles que c'est fait aujourd'hui en Grèce ou dans d'autres pays. Donc voilà, c'est essayer, ce qui ressort de cet espace climat, c'est aussi de dire intégrons ces enjeux dans toutes les campagnes, dans toutes les mobilisations que nous menons. Et on sait que c'est pas acquis, parce que c'est aujourd'hui, et on voit bien dans le débat public, notamment européen, toute une série de gens, toute une série d'acteurs, toute une série d'organisations, toute une série de syndicats ou de partis politiques qui disent « Non mais arrêtez de nous emmerder avec le climat, vous voyez bien qu'en Europe, la priorité, c'est la lutte contre les politiques d'austérité, c'est la lutte pour l'emploi, c'est la lutte contre le chômage, c'est la lutte pour faire que les gens aient suffisamment d'argent pour vivre. » Ce avec quoi on est totalement d'accord, à une seule condition, c'est que les solutions qui soient préconisées et mises en place pour, et les mobilisations qui sont mises en place pour se mobiliser sur ces enjeux-là tiennent compte réellement de ce que sont les enjeux climatiques et les limites de la planète. Et donc, par exemple, quand on nous dit que il faut pas viser 1% de croissance, mais 3% de croissance en Europe pour résoudre les questions d'emploi, de chômage et sortir de cette période d'austérité, on dit que c'est pas la bonne façon de mener le débat et de construire des mobilisations. La bonne façon, c'est de se rendre compte qu'il y a toute une série d'activités économiques non délocalisables, rentables ou pas, mais qui en tout cas ont tout leur sens dans les territoires et qui permettent de relocaliser des productions, de s'assurer que les gens vivent bien, vivent mieux, de s'assurer que de reconstruire du lien social, de s'assurer qu'il y ait du débat public, de s'assurer qu'il y ait toute une série de choses très importantes et qui sont bien plus aujourd'hui des réponses à la crise et à l'austérité en Europe que des politiques de croissance telles qu'elles ont été imaginées il y a 50 ans ou 100 ans et qui sont pourtant aujourd'hui toujours à l'ordre du jour.
Ouais, toujours la boussole de ce monde fou. Merci Maxime. On va faire une petite pause de 1 minute, une petite pause musicale, puis on reprend ensuite sur le Forum social mondial et l'espace climat. Salut à tous, donc vous êtes sur FPP, fréquence pareil pluriel, la fréquence est 106.3 sur une bande FM. Donc du coup vous êtes ce soir avec Zoom Écologie, exactement avec la bande d'Abébel, hein, donc cette émission qui passe tous les derniers jeudis du mois. Et donc là nous sommes avec donc, Maxime Combes, qui a donc été l'un des organisateurs de l'espace climat au Forum social mondial.
Oui, Maxime, merci pour tes explications. Il me semble que donc il y avait plusieurs activités qui étaient organisées. Vous en avez déjà évoqué quelques-uns. Nous, on était assez curieux de savoir ce que c'est que cette campagne pour les millions de climate jobs. Qu'est-ce que c'est cette campagne?
Ah, c'est quelque chose d'assez étonnant et intéressant, et qui est de dire que il ne peut pas y avoir de réponse à la hauteur des enjeux climatiques qui ne tiennent pas compte non plus des défis sociaux, du fait que les gens puissent conserver un emploi, un revenu, de quoi vivre, et que sur cette question-là, en général, les pays ou les multinationales disent « mais vous inquiétez pas, on a la réponse, ça s'appelle la green economy, l'économie verte, ça s'appelle le développement durable, ou ça s'appelle... » Et donc on verdit tout ce qu'on peut en laissant entendre qu'il n'y a pas de souci, les multinationales, les entreprises pourvoiront aux emplois verts de demain à travers des méga-sites de réutilisation ou de valorisation des déchets, des usines de méthanisation pour pour les ressources agricoles non utilisées en termes de nourriture, et qu'on va pourvoir aux emplois des gens de cette façon-là. Et cette réponse-là n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce serait confié aux multinationales la solution de la crise dans laquelle nous sommes et qu'ils ont contribué à faire naître. Elle n'est pas satisfaisante parce qu'elle laisse penser que finalement les salariés, les travailleurs, les gens qui bossent n'ont finalement qu'à attendre que les emplois leur soient délivrés par le secteur marchand tel qu'il existe aujourd'hui. Et elle n'est pas satisfaisante parce que la plupart de ces emplois verts tels qu'ils sont présentés ne sont rien d'autre effectivement que du greenwashing et assez peu, faisant finalement pas part de la solution mais plutôt du problème. Et du coup, il y a toute une série d'organisations en alliance avec des syndicats, en général des syndicats assez ancrés à gauche et qui sont prêts à discuter de ce que c'est qu'une véritable transition écologique et sociale, et qui ont monté cette campagne autour des 1 million climate jobs, et qui est une campagne qui vient du Royaume-Uni et qui aujourd'hui s'est étendue à l'Afrique du Sud et demain aux États-Unis et au Canada, donc dans des pays anglophones. C'est aujourd'hui pas présent en France, où c'est en fait bien plus compliqué de monter ou d'envisager une campagne de ce type. Et l'idée, c'est de dire on veut des emplois et on va faire en sorte de créer des emplois qui soient réellement satisfaisants au regard des exigences climatiques. Et c'est pour ça que ces emplois, on les appelle pas des green jobs, mais des climate jobs. C'est pour cette raison-là. Et on ne va pas simplement attendre que les multinationales nous pourvoient ou nous fournissent ces emplois. On va essayer, avec tous les moyens possibles, d'exiger des pouvoirs publics qu'ils mettent réellement en place des politiques qui permettent le développement de ces climate jobs et de défendre ceux qui sont aujourd'hui des climate jobs réellement pertinents et existants. Par exemple, les emplois dans l'éducation ou dans la santé, d'une certaine manière, peuvent être considérés comme des climate jobs parce que s'ils sont fournis sur un plan local et de manière satisfaisante, ils sont réellement pourvoyeurs de la satisfaction de besoins publics et de services publics sans être forcément attentatoire au climat. Et il y a toute une série d'emplois qui peuvent être développés de cette façon-là. Et quand on va développer des énergies renouvelables, l'idée, c'est pas simplement de construire des méga projets d'énergie renouvelable qui sont extrêmement problématiques pour plein de raisons, mais de pourvoir des emplois dans le développement de ces énergies renouvelables qui soient localisés sur les territoires et qui permettent de renforcer la résilience des communautés. Alors bon, et toute une série d'autres, dans d'autres secteurs, on peut envisager d'autres activités. Ce que je suis en train de dire est un peu, le côté extrêmement positif de cette campagne-là et une présentation peut-être un peu trop optimiste, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que ça se tourne, et le côté extrêmement positif, c'est que c'est une alliance entre associations, mouvements de la société civile et syndicats autour de cette question-là, et que toute une série de syndicats, bien qu'ils ne soient pas majoritaires la plupart du temps dans leur secteur, se sont mis à mener campagne pour ces One Climate Jobs. Et par exemple, le syndicat majoritaire en Afrique du Sud, la COSATU, aujourd'hui mène campagne pour ces 1 million climate jobs, rejetant à la fois l'énergie nucléaire, rejetant les grandes centrales électriques à charbon et demandant le développement des énergies renouvelables décentralisées et qui permettent réellement de pourvoir aux besoins et d'accès à l'électricité pour les communautés qui aujourd'hui en sont dépourvues. Donc on a des choses qui sont relativement intéressantes et des lignes qui bougent. Je disais que c'est plus compliqué d'organiser en France parce que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à voir ou à monter une campagne de ce type. Il y a des gens qui sont intéressés, mais d'une manière générale, nos syndicats considèrent que dès qu'on parle d'emploi, c'est un peu une chasse gardée. Alors, je parle pas pour tous les syndicats, mais un certain nombre quand même pour qui c'est le cas. Et du coup, pour l'instant, on ne sait pas trop comment prendre cette question à bras-le-corps en France. Donc si vous avez la solution, vous à la radio ou vous les auditeurs, nous sommes preneurs parce que en tout cas, que ce soit cette campagne-là ou une autre, ce qui est sûr, c'est qu'on pense qu'il y a besoin de faire bouger plus de lignes que ce qu'il y en a qui bougent actuellement dans les syndicats pour travailler ces questions de transition écologique et sociale et de travailler tous ensemble et pas simplement chacun de notre côté. Et on voit actuellement le débat sur la transition énergétique en France où des confédérations syndicales supposé être relativement à gauche, sont aujourd'hui plutôt proches des positions patronales sur la question de la transition énergétique que proches des ONG et du secteur qui se bataillent pour une transition écologique et énergétique. Et ça, ce n'est pas satisfaisant, et je ne suis pas en train de jeter la pierre aux uns ou aux autres, c'est simplement de dire que les conditions ne sont pas réunies pour que les lignes bougent et faire en sorte qu'on soit en mesure réellement de mettre en œuvre une transition écologique et sociale dans ce pays, d'une manière ou d'une autre.
Et alors, une autre question qu'on se posait, étant donné que la Tunisie, c'est quand même un contexte politique et social bien particulier, est-ce qu'en Tunisie, vous avez ressenti qu'il y avait une sensibilité à toutes ces problématiques, généralement, autour du climat, est-ce qu'ils ont pu justement voir un intérêt, est-ce que les personnes sur le terrain, notamment en Tunisie, est-ce qu'il y avait un intérêt naissante pour ces problématiques écologiques
On avait une grande crainte parce que ça avait été relativement difficile, parce que les organisations tunisiennes avaient été difficilement mobilisables en amont de la préparation de cet espace climat, parce qu'elles étaient toutes complètement obnubilées par l'organisation générale du Forum social mondial. Donc on craignait un peu en fait que cet espace climat permette simplement de réunir les Européens, les Nord-Américains, les Sud-Américains, les Asiatiques, qui se connaissaient déjà, et qu'il y aurait finalement peu de personnes nouvelles. Et au final, le résultat de l'espace climat était au-delà de toutes nos attentes, puisque une très très grande participation, et pas simplement une participation de blancs provenant des pays que j'ai cités, ou d'asiatiques, mais qui n'étaient pas de toute façon très très nombreux. Il y avait de nombreux Tunisiens qui sont venus dans les activités de l'espace climat, qui soient intéressés, qui soient déjà mobilisés sur des questions précises, ou qui soient réellement partie prenante pour s'impliquer dans des espaces plus généraux. Je suis pas en train de dire que toute la société civile tunisienne est aujourd'hui convaincue que les défis climatiques, les défis écologiques sont essentiels, mais en tout cas il y a un net intérêt, et notamment les activités menées sur la question des gaz de schiste en Tunisie ont connu un très très vif succès. Alors elles n'étaient pas directement dans l'espace climat, mais juste à côté, et en fait ont contribué à la dynamique de l'espace climat. Et de très nombreux Tunisiens y ont contribué, participé, et aujourd'hui des réseaux un peu plus sérieux entre les organisations et les groupes en France mobilisés contre les gaz de schiste et ceux en Tunisie sont constitués. De la même manière, on a rencontré toute une série d'organisations tunisiennes ou de petits groupes tunisiens travaillant contre des pollutions locales ou des problèmes écologiques liés au milieu marin, au milieu terrestre, et qui sont venus à l'espace climat, qui sont venus nous poser des questions, qui sont venus prendre des contacts, qui se sont intéressés, qui ont contribué à leur manière dans la partie de débat, qui nous ont interpellés, qui nous ont aussi dit le bien qu'elles pensaient de cet espace climat, mais aussi ce qui n'avait pas pu être suffisamment discuté. Donc pour nous, c'est plutôt un point extrêmement positif. Après, de cela, on ne tire pas la conclusion que la question est gagnée et que ça y est, les mouvements sociaux en Tunisie sont tous devenus des mouvements écologistes. C'est pas ça. Mais il y avait un vrai intérêt, et comme on le voit dans beaucoup d'autres pays, en fait, dans le monde, cet intérêt-là, autour d'une question aussi vaste que le climat, passe par l'implication dans des luttes locales plus concrètes contre les gaz de schiste, contre une pollution là, contre un projet dévastateur à un autre endroit, et qu'à travers ces questions-là, qui peuvent apparaître comme des questions extrêmement locales, réduites à une seule thématique, il y a un processus d'intéressement à ces questions beaucoup plus larges et parfois beaucoup plus déconnectées du réel et du quotidien que peuvent être les défis climatiques ou les défis de la transition écologique ou énergétique mondiale, mais que c'est en connectant ces luttes locales, ces initiatives locales ou ces initiatives de transition locale et d'expérience, d'expérimentation locale pour vivre autrement, inventer autre chose, qu'on arrive à tisser ce réseau mondial pour la justice climatique. Donc voilà, c'était une bonne opportunité à Tunis.
Merci Maxime. Du coup, si on veut se renseigner un peu sur ce qui s'est passé au Forum social mondial, parce que là, on va devoir finir, est-ce que tu as un média à conseiller, un site internet?
On avait créé un site internet qui s'appelle Climate Space 2013. Donc ça s'écrit en fait en français, ça s'écrit climatespace2013.org, sur lequel vous pouvez retrouver tous les documents qui ont été produits en amont, pendant ou après le Forum social mondial, et avec toute une série d'outils dédiés, une page Facebook, un compte Twitter, une possibilité pour nous contacter par mail. Voilà.
Merci beaucoup, Maxime.
Merci, Maxime.
Et donc, bonne poursuite dans cette lutte.
Merci à vous et bonne continuation.
À bientôt, merci.
Salut. Donc du coup, bah, on enchaîne encore, hein, parce que on était donc au Forum social mondial avec Élise et elle a fait donc une interview donc de BC et on va écouter un peu ce qu'ils ont à nous raconter.
Donc bonjour, je m'appelle Élise et donc je fais partie de BC. BC c'est une association du Pays Basque et une association qui lutte contre le changement climatique et pour la justice sociale et climatique.
Est-ce que tu peux juste me présenter enfin, les actions de BC pour les gens, les personnes qui ne connaissent pas?
Alors, c'est compliqué parce que c'est tellement... voilà, donc BC, c'est une association qui a 5 ans, qui est née dans la dynamique de Copenhague, en fait. En se disant, ben voilà, les grands sommets internationaux on se rend compte que c'est pas efficace, quoi. Et du coup, il faut faire autre chose, il faut se prendre en main. Et donc le BC a été créé autour de la question de la justice climatique et sociale. C'est très important pour nous, ça. C'est que voilà, on sauve la planète parce que sur la planète il y a des gens qui vivent et que toutes les atteintes à la planète c'est des atteintes notamment aux plus pauvres. Donc après nos champs d'action c'est donc autour de la question des transports, donc promouvoir les transports en commun, les transports doux, la bicyclette, le vélo. On a aussi beaucoup d'actions sur les grands projets inutiles et imposés, notamment sur la ligne LGV qui est prévue pour traverser le Pays Basque. Et donc qui promeut un modèle de déplacement à grande vitesse des plus aisés. C'est pas ces modes de déplacement qu'on souhaite promouvoir. Après, on a créé une boîte à outils dans la perspective des élections municipales de 2014 pour que les candidats aux élections préparent leur programme en intégrant dans leur programme des éléments pour une politique beaucoup plus respectueuse de la terre et de l'homme autour des questions, toujours pareil, donc climat, déchets, transport, énergie, habitat, alimentation, agriculture. Et voilà, donc les candidats, en fait, ils prennent des idées dans cette boîte à outils. Et ensuite, nous, on les aide à mettre en place ces idées. C'est pas que des idées, c'est aussi des exemples d'initiatives qui ont été mises en place ailleurs. Voilà, donc
vous avez des retours
Alors c'est très récent, hein, puisque la boîte à outils programmatique, elle a été lancée il y a une dizaine de jours, je crois.
Vous savez pas encore
Mais oui, il y a des candidats qui sont intéressés. Voilà, après, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit bien réparti sur l'ensemble de la classe politique, en fait. C'est vraiment l'idée qu'il faut changer le système globalement. Donc il faut militer au niveau global, mais il faut aussi militer au niveau local et mettre en place des initiatives et changer les choses au niveau local.
Donc là, vous êtes venu au Forum social mondial à Tunis. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites et si vous avez une campagne particulière?
En fait, on est venu à Tunis parce que on est en train de lancer une dynamique là au niveau international pour la création d'un logo contre le changement climatique. On connaît tous le ruban rouge que toutes les associations qui luttent contre le sida présentent pour montrer qu'elles sont dans la lutte contre le sida. Nous, on souhaiterait créer en fait un logo qui fédère, qui permette de se reconnaître entre toutes les associations qui luttent contre le changement climatique, que ce soit les associations qui luttent contre la déforestation, pour l'agriculture biologique ou pour les transports en commun, voilà. Donc il fédère toutes ces initiatives qui ont au bout du compte comme objectif final de lutter contre le changement climatique.
Je vois qu'il y a une ficelle sur laquelle sont accrochés des messages. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça?
Voilà, alors donc pour lancer notre dynamique, donc logo climat, on a souhaité être très visible. Donc on a mis en place plusieurs choses pour être lisible. Donc notamment un dispositif de porteur de parole. Donc le dispositif de porteur de parole, c'est on va vers les gens et on parle avec eux autour des questions notamment du changement climatique et on leur demande de donner une phrase courte, synthétique, pour exprimer pourquoi est-ce que c'est important pour eux de lutter contre le changement climatique, quels sont les enjeux. Et donc ensuite on l'écrit sur un beau papier pour que ce soit assez visuel. et esthétique. Et donc là, on a, voilà, on a des phrases en italien, en arabe, en français, en anglais, en basque. Et voilà, et on essaye d'en avoir un petit peu voilà, de différentes langues et puis de gens qui viennent du monde entier. Et puis, une autre chose qu'on a mise en place pour être visible, c'est qu'on a fait un dragon, donc un gros dragon en tissu, qu'on est quatre à manipuler. Et en fait, on se promène dans l'ensemble du forum social pour faire connaître notre action. On distribue des tracts en même temps. Et c'est vrai que les gens sont très interpellés. Ils trouvent que c'est un moyen sympa d'exprimer. En fait, notre dragon, il exprime... ben voilà, c'est le dragon qui mange le climat, qui détruit le climat, en fait. Donc, c'est le système qui détruit le climat. Et donc, l'objectif, c'est un peu d'abattre le dragon, quoi.
Mais je vois que c'est comme... Enfin, c'est très participatif, en fait, là, à travers ce que vous proposez. Là, en fait, vous demandez aux gens de participer à la création d'un logo. Comment vous allez procéder pour choisir, en fait, ce logo ?
Notre objectif, c'est que ce soit vraiment un logo qui soit pas ancré dans une culture. C'est pas nous qui proposons un logo. C'est nous, on propose aux gens de donner leurs idées de logo, et après on va constituer un jury international, donc avec des gens du monde entier, et qui vont choisir parmi tous les logos qui auront été proposés celui qui, à leur avis, représente le mieux la lutte contre le changement climatique. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est une toute petite association, on vient du Pays Basque. Bon, personne sait où c'est le Pays Basque, donc on peut pas être associé à gros pays. Voilà, on est... Donc c'est notre petitesse qui est un peu notre force et qui va faire qu'on espère que cette initiative va aboutir. Logo Climat est soutenu par des personnalités de l'environnement et de l'écologie. Donc je vais les citer, on a Pablo Solon, Vandana Shiva, Adolfo Pérez Esquivel, Vanija Matal, Paul Nicholson, Shara Bureau, Bobby Peake, Susan George, Bill McKibben, Naomi Klein. Voilà. Et il y en aura d'autres à venir aussi. Donc voilà, tous ces gens-là qui sont des grosses pointures de l'écologie, ils soutiennent notre action parce que voilà, ils trouvent aussi que c'est quelque chose qui mérite d'être fait.
Et concernant les phrases que vous avez demandé à des gens justement d'écrire, que vous affichez là, est-ce qu'après vous allez faire quelque chose ?
Alors ça peut-être, c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de faire parler les gens, de les faire réfléchir à la question du changement climatique. Et puis, comme c'est très visuel, les gens, ils viennent voir, ils viennent lire, ils en parlent, ils prennent des photos. Voilà, ça fait un petit peu du buzz, quoi. Bon, après, c'est possible qu'on en fasse quelque chose, parce qu'effectivement, c'est un matériau intéressant. Et on a des gens d'Afrique du Sud, d'Italie, Tunisie, c'est chouette, quoi. Donc on va peut-être en faire quelque chose. C'était pas notre objectif principal.
Là, c'est
voilà.
Vraiment pour le forum social. Parce que là, en fait, donc, vous voulez créer un logo, voilà, qui fédère. En gros, quelles sont qu'en pensent les associations de l'environnement ? Est-ce que vous avez déjà...
En fait, on a des réactions. Des associations de l'environnement, pour l'instant, nous soutiennent. Et puis, en fait, ce qui est très touchant ici au Forum Social Mondial, c'est qu'on rencontre des petites associations de pays du Sud qui nous disent, moi, je vis dans une zone sahélienne, le changement climatique, j'en vois les effets tous les jours, je vois les effets sur les populations qui sont obligées de se déplacer. Moi, j'habite à Tunis, je vois comment la mer, elle a commencé déjà à grignoter la plage et comment il y a des gens qui ont été obligés de partir. Enfin, on a plein de témoignages comme ça, des gens qui nous disent, mais oui, c'est vraiment important, quoi. C'est vraiment important parce que nous, dans les pays du Nord, ça reste une idée un peu abstraite. Bon, allez, le changement climatique, c'est vrai, c'est bizarre, il n'y a plus de saison, etc. Bon, c'est abstrait. Pour des pays du Sud, c'est pas du tout abstrait, quoi. Ils voient des villages qui sont obligés d'être évacués, ils voient des terres qui deviennent stériles parce que elles ont été envahies par la mer et du coup elles sont salées. Enfin, c'est du concret, c'est maintenant et c'est urgent de faire quelque chose. Et c'est ce que les gens ils nous renvoient ici. Voilà.
Pour eux, ce logo, ça leur permettrait.
Oui. Donc ils disent c'est bien, je vais faire ça. Moi, je fais partie d'une association de femmes, on va le faire. Enfin, on rencontre aussi une attente qui existe. Alors après, il y a aussi des gens, et surtout des gens européens comme ça, qui nous disent oh, « Mais non, mais de toute façon, le climat, il a changé depuis toujours. » Enfin, voilà, on rencontre des gens qui sont dans le déni aussi, dans le négationnisme même. Mais voilà, ben à ce moment-là, qu'ils aillent parler avec ces Maliens, avec ces Tunisiens, avec ces Sénégalais, voilà, qui sont confrontés à ça. On a aussi une autre invitation à faire. Le 6 octobre à Bayonne, on organise un village des alternatives qui s'appelle Alternativa, donc le 6 octobre. Parce que à Bissy, on croit que c'est très important de dénoncer, d'alerter, de dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas bien. Mais qu'il y a des solutions, et qu'il y a des solutions qui existent déjà. Il y a des initiatives qui existent déjà. Et donc le 6 octobre, à Alternativa, on va mettre en valeur des initiatives dans des domaines très très différents qui contribuent à changer le système et à aller vers un système qui soit beaucoup plus respectueux de l'homme et de la planète. Voilà. Donc on invite à la fois les associations qui ont envie de présenter des choses à venir nous contacter, et puis à venir présenter, peut-être pour être présent, et puis également tous les citoyens qui ont envie de vivre un moment de fête, un moment très festif et d'espoir et de découverte, et pour prendre des idées et pour reproduire ça partout sur le territoire français, sur la planète. Donc le 6 octobre à Bayonne. C'est sur une journée, ouais.
Et vous avez déjà des exemples d'alternatives qui seront présentes
On a déjà beaucoup de choses qui se passent au Pays Basque, en fait, par exemple, un atelier vélo pour inciter les gens à utiliser le vélo plutôt que la voiture. Au Pays Basque, on a monté aussi une monnaie locale, l'Euskal, qui a démarré en janvier, qui démarre en fanfare. C'est un très gros succès. Voilà. Alors nous, on a des choses à présenter aussi sur l'agriculture respectueuse de l'environnement. Il y a des choses partout. Donc on va organiser la ville, en fait. La ville va être fermée aux voitures. Il y aura des quartiers, avec le quartier des transports, le quartier de l'alimentation, le quartier de l'agriculture, le quartier de l'éducation à l'environnement, Donc ça sera par thème, ouais. Alors il faut que je donne le site de Logo Climat pour les gens.
Tu m'as donné une plaquette.
Voilà, donc ce serait bien de donner le site aussi pour que les gens puissent. Parce qu'on invite. On invite vraiment tout le monde à poster des logos sur le site. C'est bon, merci. Le site de Logo Climat, c'est www.logoclimat.org. Toi aussi, propose ton logo pour la planète.
Merci.
Voilà, merci beaucoup. Donc, c'était Bissy, donc Élise de Bissy, qui a été interviewée par Élise de la bande Abébert. Et la dernière émission sur le Forum social mondial, et ce qui s'est passé là-bas et en Tunisie notamment. Et donc là, on arrive à la fin de l'émission, et on va vous passer une petite musique pour finir, de Thierry Robin et Julapi Sapera, Nin, qui s'appelle N-E-E-N. On vous laisse. Et
bonne soirée.
Le dit Bébert,
salutations
écologiques et solidaires.
Et venez dans ma piscine.